Bonjour à tous. Je suis bien Benjamin Ratovo, le père de Luc Ratovo. La petite rectification. Benjamin Ratovo de l'église protestante évangélique d'Antibes. Dans le civil, je suis médecin retraité. Et donc, on vient de le dire, Daniel, je suis désigné par nos anciens pour être parmi vous ce matin pour ce qu'on appelle un échange de chair pour l'Église de grâce. Mais je ne suis pas ici pour apporter un enseignement pour affermir les chrétiens de grâce. Au contraire, c'est moi qui ai été édifié par les études bibliques, les prédications faites dans votre assemblée, par le biais de l'Internet. Donc, tout ce que vous dites ici, je l'ai écouté, pas tout. Et j'ai été édifié par certaines de vos études bibliques, je crois que c'est sur l'épître de Pierre, les épîtres de Pierre, dernièrement. Et si nous sommes ici ce matin avec mon épouse, c'est pour partager ce moment de culte avec des frères et sœurs, comme le dit l'apôtre Pierre dans Romains, pour que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune. À Antibes, ces derniers temps, nous nous sommes lancés courageusement dans l'étude des sacrifices dans le Lévitique. Je dis courageusement parce que le Lévitique, c'est un livre difficile, mais nous avons été encouragés. Et je voudrais, avec vous ce matin, apporter quelques, non pas quelques lumières, mais quelques fruits de nos réflexions sur ce livre difficile, mais ô combien passionnant et intéressant. Nous avions suivi dans ce cadre, le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte pour aller dans le désert, pour adorer, pour rendre un culte au Seigneur dans le désert. Et ce peuple, en se rassemblant dans le désert, a appris à vivre ensemble, à connaître Dieu par la connaissance et l'obéissance à sa parole. Et ce peuple a appris qu'on ne pouvait s'approcher de Dieu n'importe comment. Il y avait un passage obligé pour rendre un culte agréable à l'Éternel. Et ce passage obligé, c'était les sacrifices. Les sacrifices qui sont présentés par le livre du Lévitique. Alors, il y a deux sortes de sacrifices dans le livre de Lévitique, pour simplifier un peu. Il y a les sacrifices pour obtenir le pardon, et les sacrifices de reconnaissance pour celui qui a obtenu le pardon. Et le Lévitique présente donc les sacrifices selon un ordre précis, les premiers chapitres de 1 à 5, et qui nous, pour nous, une illustration du trajet que le Seigneur Jésus a suivi depuis le ciel jusqu'à sa mort. Dans le Lévitique chapitre 1er, par exemple, il est présenté l'Holocauste. L'Holocauste, c'est le don total, parfait du Seigneur Jésus. Puis, dans le Lévitique chapitre 2, c'est l'offrande. L'offrande, c'est l'illustration de la vie pure du Seigneur Jésus quand il était sur terre. Le chapitre 3, c'est le sacrifice d'action de grâce, représente le sacrifice de communion du Seigneur Jésus avec son Père. Et les chapitres 4 et 5, ce sont les chapitres qui nous parlent, peut-être qu'on connaît le mieux, ce sont les sacrifices pour le péché, qui montrent comment le Seigneur Jésus a expié nos péchés sur la croix. Les chapitres 6 et 7 apportent des précisions sur ces différents sacrifices. Alors, dans le Lévitique 4 et 5, donc, à la fin de ces chapitres sur les sacrifices, nous est parlé donc du sacrifice de l'expiation qui nous montre la gravité du péché. Alors, nous avons donc cette première grille de lecture, si vous voulez, de 1 à 5, comment le Seigneur Jésus est venu vers nous. Par la même, en suivant le même trajet, l'homme, comment peut-il revenir, comment peut-il accéder au Seigneur Jésus? C'est le même chemin, mais inverse. C'est-à-dire que l'homme doit passer d'abord par le sacrifice pour le péché, il doit régler en premier le sacrifice pour le péché, pour pouvoir s'approcher de Dieu. Donc pour lui, Lévitique 4 et 5, régler le problème du péché pour avoir le pardon. Lévitique 3, c'est la communion. La communion est ainsi possible. Il peut être reconnaissant envers le Seigneur parce que son péché a été pardonné. Lévitique 2, ainsi pardonné, ainsi reconnaissant, il doit vivre une vie pure, une vie sanctifiée. Et finalement, Lévitique 1, c'est l'Holocauste. Il doit, en quelque sorte, faire don total de son corps, de son être entier, pour le Seigneur. Le sacrifice d'expiation pour l'homme, chapitre 4 et 5, c'est un sacrifice sanglant, nécessitant la mort de la victime. Le sacrifice de Jésus sur la croix, qui a remplacé ce rituel de l'Ancien Testament. Il a versé son sang et donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Et ce matin, je voudrais très brièvement voir avec vous, nous allons faire le sacrifice d'action de grâce, qui, avec l'offrande et l'holocauste, font partie des sacrifices qui expriment la reconnaissance. L'homme est reconnaissant parce que son péché a été pardonné. Nous allons lire dans le Lévitique chapitre 3, donc, versets 1 à 5. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation et les sacrificateurs fils d'Aaron répandront le sang tout autour de l'autel. De ce sacrifice d'action de grâce, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. La graisse qui ouvre les entrailles et toute celle qui est attachée, les rognons, la graisse qui les entoure, les flancs et le grand lobe du foie. Si les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera mis sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et au Lévitique chapitre 7, quelques précisions, versets 11 et 12. Voici la loi concernant toujours le sacrifice d'action de grâce. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il l'offrira avec le sacrifice d'action de grâce, des gâteaux, des galettes et des gâteaux de fleurs de farine. Ce qui pousse l'homme à faire ce sacrifice d'action de grâce, c'est la reconnaissance. Il est reconnaissant. C'est pour ça qu'il offre ce sacrifice d'action de grâce. Dieu donc ménage dans le culte qui lui est offert une place pour la reconnaissance. Nos relations avec le Seigneur, avec notre Dieu, ne sont pas seulement des relations de crainte ou de peur qui sont ressenties par l'homme devant une divinité quelconque. Ou bien, nos relations ne sont pas basées sur la recherche du pardon ou des bienfaits. Dieu est prêt à nous pardonner. Dieu est prêt à nous combler de ses bienfaits, mais il attend aussi de nous l'expression de notre reconnaissance. La reconnaissance, c'est la gratitude. C'est reconnaître qu'on est redevable à Dieu qui nous a procuré un bien précieux. L'expression « rendre grâce » est utilisée par la Bible pour définir, pour exprimer la gratitude. Rendre grâce, c'est dire merci. Et l'apôtre Paul insiste largement auprès des Colossiens pour qu'ils rendent grâce par le Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 3, verset 15, « Que la paix de Christ règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Verset 16, « Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Chantez à Dieu votre reconnaissance. » Et verset 17, « Faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui au Père. » Vous connaissez sûrement ce chant de Matt Redman qui disait « Il y a 10 000 raisons pour louer le Seigneur. Il y a 10 000 raisons pour le bénir. » L'apôtre Paul, lui, va encore plus loin en disant « Rendez grâce en toute chose. » En toute chose. Plus que 10 000 raisons. En toute chose. Rendez grâce au Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Nous avons certainement de nombreux sujets de reconnaissance dans notre vie avec le Seigneur. Un chrétien avait l'habitude de noter dans un carnet tous les bienfaits que le Seigneur lui accordait tous les jours et remplissait fidèlement, régulièrement, tous les bienfaits, quotidiennement donc, dans ce carnet. Et puis un beau jour, il perd son carnet. Il le retrouve plusieurs années après, et avec beaucoup de nostalgie, il refeuillette ce carnet, et il se rendit compte qu'il avait oublié la plupart de tous les souhaits, de tous les bienfaits que le Seigneur lui avait fait. Il les avait oubliés. Contrairement à David, qui disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi ? Parce que nous sommes oublieux. Nous avons la mémoire courte. La Sainte Cène était un moyen pour Jésus pour rappeler aux disciples certaines choses essentielles parce que nous avons mauvaise mémoire. Un autre chrétien qui, lui, souffrait plutôt d'insomnie, comptait les bienfaits de Dieu au lieu de compter les moutons pour s'endormir. Authentique. Compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Le contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Et dans sa dernière lettre à Timothée, probablement son dernier épître, dans 2 Timothée 3, verset 2, Paul dit que dans les derniers temps qui seront difficiles, dans les derniers temps, les hommes seront ingrats. Il y a toute une liste de mauvaises choses que les hommes auront dans les derniers temps, mais en particulier, ils seront ingrats. L'ingratitude serait donc un marqueur des derniers temps. Quand j'étais encore jeune étudiant en médecine, en parlant avec un ami, qui était déjà, qui était médecin aussi, mais qui était déjà installé, j'étais surpris par une réflexion qu'il disait, qu'il nous avait dit, en disant, si c'était à recommencer, je ne recommencerais pas. C'est-à-dire le métier de médecin, parce que il y a une chose qui l'avait freiné, en quelque sorte, dans son métier, c'était l'ingratitude des patients. Ça m'avait un peu échaudé dans ma vocation, mais finalement, je crois qu'il avait raison, et il y a quelque temps, je travaillais, quand j'étais encore en fonction, je travaillais dans une clinique cardiologique à Saint-Laurent-du-Var, et un jour, une personne est tombée devant nous, devant l'équipe, arrêt cardiaque. Alors là, il y avait le chirurgien cardiaque, il y avait 3 cardiologues, il y avait un anesthésiste réanimateur, plus tous les infirmiers et les infirmières qui étaient spécialisés dans la réanimation. Et cette pauvre dame, elle fait son arrêt cardiaque devant nous. Alors, nous nous sommes précipités, c'était une équipe bien rodée, professionnelle, nous savons ce qu'il fallait faire, et on a fait ce qu'il fallait faire, et on a eu la chance de ramener cette dame à la vie, avec toutes les techniques, l'échographie, massage cardiaque, etc., etc. Et on était bien contents. On a beau avoir l'habitude, on est toujours content quand on arrive à ramener quelqu'un à la vie. Quelle n'a été notre surprise, au bout de quelques semaines, de savoir que cette dame et sa famille a porté plainte contre nous parce que elle avait encore des douleurs dans la poitrine dues à un massage cardiaque peut-être un peu vigoureux. On était un peu surpris. Évidemment, on fait la réanimation, c'est pas pour recevoir des remerciements ou des louanges, mais on était quand même un peu surpris. L'ingratitude. Serions-nous dans les derniers temps? Et pourtant, Dieu reste le Dieu d'amour et de compassion. Le Seigneur Jésus dit, Dieu est bon pour les ingrats et les méchants. Oui, nous pouvons compter les bienfaits de Dieu et lui rendre grâce en toutes choses. Le sacrifice d'action de grâce dans l'Ancien Testament était le moyen pour l'Israélite de l'Ancien Testament pour montrer sa reconnaissance et pour prouver sa gratitude envers son Dieu. Pour nous chrétiens, ce sacrifice d'action de grâce est une illustration que Dieu lui-même nous donne pour nous montrer de quelle manière lui rendre grâce. Comment se déroule le sacrifice ? Au chapitre 3, donc, au verset 1, c'est un sacrifice qui est volontaire, c'est un sacrifice qui est sanglant. L'animal qui est sacrifié peut être mâle ou femelle, mais surtout, c'était un animal sans défaut. Ce que nous offrons à Dieu, ce que nous faisons pour Dieu, ou pour l'œuvre de Dieu, doit être sans défaut. C'est-à-dire irréprochable. C'est une règle générale. Il ne faut pas donner à Dieu ou à l'œuvre de Dieu ce qu'on ne peut plus employer, ce qui est inutile ou encombrant, ce qu'on a eu, ce qu'on a en plus, ce qu'on ne peut plus utiliser correctement. Il faut éviter de dire « il vaut mieux donner à la mission que de le jeter ». Celui qui offre un sacrifice défectueux, dit l'Éternel, est un trompeur. Par la bouche de son prophète Malachie, maudit soit le trompeur qui, dans son troupeau, a un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Ce que nous faisons pour le Seigneur doit être de qualité, que ce soit animer une réunion, faire une étude biblique, animer un camp ou composer un chant. Cela doit être techniquement parfait, parce que c'est pour le Seigneur. Nous devons y mettre toute notre intelligence, toute notre énergie, toutes nos forces et nos moyens pour produire ou faire ou effectuer quelque chose de qualité, parce que c'est pour le Seigneur. Et le monde nous donne parfois des leçons, car le monde sait produire des choses de qualité, de belles choses, sans regarder à la dépense. Et souvent, nous, en tant que chrétiens, nous nous contentons, pas toujours, mais parfois, de l'à peu près. Une fois que c'est fait. Mais parfois, la qualité n'y est pas. Et j'étais souvent frappé aussi en regardant mes professeurs en médecine ou mes enseignants avec la rigueur avec laquelle ils faisaient soit leur travail, soit quand ils produisaient des articles ou ils écrivaient des articles en médecine, une rigueur extraordinaire. Ça m'a toujours frappé et parfois en faisant la comparaison avec nous, on n'est pas toujours gagnant. On n'est pas toujours gagnant parce que nous nous contentons de l'à peu près. Ce que nous faisons pour Dieu, ce que nous offrons à Dieu, doit être l'expression du meilleur de nous-mêmes, de tout notre cœur. Celui qui fait un sacrifice d'action de grâce offrira un animal sans défaut. Lévitique 3, verset 2, il posera sa main sur la tête de l'animal, il l'égorgera. Qui il ? Celui qui apporte le sacrifice, celui qui offre le sacrifice. Il doit venir en personne, lui-même. Ce n'est pas le sacrificateur qui égorgera l'animal, c'est lui. Il posera sa main sur la victime, et l'égorgera, dit Lévitique 7, verset 30, de ses propres mains. Il fera le sacrifice de ses propres mains. Il y a là un engagement personnel. C'est cela, le sacrifice d'action de grâce. C'est l'homme qui s'exprime personnellement. C'est l'homme qui s'engage personnellement. Qui aura part à ce sacrifice ? Verset 3 à 5. De ce sacrifice, il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel, la graisse, les rognons et le grand lobe du foie. Une partie donc de ce sacrifice, de cet animal, ici nous sommes donc dans le cadre du gros bétail, c'est-à-dire c'est le taureau de 600 kilos. Et dans ce sacrifice, Dieu prend sa part, mais c'est une toute petite part, la graisse, les rognons, un lobe du foie, c'est-à-dire tout ce qui est intérieur. Et tout cela sera brûlé. Le sacrificateur, lui, aura aussi sa part, dans Lévitique 7, verset 34, ce sera la poitrine et l'épaule, une partie de la poitrine et une partie et l'épaule. Et il est précisé ici que c'est Dieu qui donne cette part au sacrificateur. Pourquoi ? Parce que le sacrifice appartient à Dieu. Et le sacrificateur aura aussi donc sa part de la joie, parce que nous allons le voir, c'est un sacrifice de joie. Il aura sa part de la joie et de la reconnaissance de celui qui fait le sacrifice, de celui qui a fait une expérience avec le Seigneur. Tout le reste de l'animal, tout le reste du taureau en quelque sorte, sera pour celui qui apporte le sacrifice. C'est la plus grande part. C'est le seul sacrifice où l'offrant, celui qui apporte le sacrifice, reçoit une portion, c'est-à-dire pratiquement tout ce qu'il a apporté. Il pourra en disposer, il pourra le manger avec sa famille, avec ses amis, avec ses serviteurs. Cela signifie que nous sommes des premiers bénéficiaires du sacrifice d'action de grâce que nous apportons au Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous en sommes bénéficiaires de tout acte de reconnaissance envers Dieu. Dieu nous bénit avec l'offrande que nous lui avons faite. Ce que nous avons apporté à Dieu est ajouté à notre compte. J'avais lu dans un article de psychologie, je pense que c'était un chrétien, mais il avait fait une étude sur la psychologie de ceux qui étaient reconnaissants. Et donc il a pris un lot de personnes qui étaient reconnaissants et puis un lot de personnes qui n'étaient pas reconnaissants. Et il rapporte que le fait d'écrire chaque semaine 5 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants permettait aux gens de se sentir mieux, d'être plus optimistes pour l'avenir. Et de plus, ces effets étaient ressentis aussi par le voisinage. Alors, ce n'était pas dans un journal chrétien, ce n'était pas dans un journal de psychologie chrétienne, mais c'était dans un journal de psychologie universitaire avec toutes les règles quand vous publiez un article, par exemple, et un comité de lecture, etc. Donc c'était quelque chose de très académique. Et là, cet auteur donc montre bien les bienfaits de la reconnaissance. Donc nous, même dans le monde, j'allais dire, il est reconnu que le fait même d'être reconnaissant apportait un bien quelque part. Et c'est ce qui est vérifié donc ici. L'offrant, celui qui offre le sacrifice d'action de grâce, de reconnaissance, est le premier bénéficiaire de ce sacrifice. L'Israélite, donc, qui a fait un sacrifice d'action de grâce par reconnaissance envers Dieu, pouvait maintenant se réjouir avec les siens, avec ses amis, avec sa famille, lors d'un repas en communion dans la joie et en présence du Seigneur. C'était dans la joie, c'est rapporté dans le Deutéronome chapitre 12. C'était devant l'Éternel qu'on faisait ce sacrifice, c'était devant l'Éternel qui se réjouissaient tous ensemble. Et ce repas d'action de grâce était source de joie dans la famille. C'était un repas qui illustrait la communion. Et dans certaines traductions, d'ailleurs, le sacrifice d'action de grâce est appelé sacrifice de communion. C'était le trait saillant de ce sacrifice, c'était la communion joyeuse avec le Seigneur. Il y a seulement une condition. Dans Lévitique 7, au verset 15, la chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangé le jour même où il est offert. On n'en laissera rien au matin, jusqu'au matin. La chair du sacrifice devait être consommée le jour même. Si c'était un sacrifice à l'occasion d'un vœu, il pouvait être à la rigueur consommé jusqu'au deuxième jour. Mais le troisième jour, tout ce qui restait devait être brûlé, ne devait pas être mangé. Ce qui était offert en sacrifice devait être mangé le jour même. Et le sacrifice n'était agréé qu'à cette condition, être mangé le jour même. Sacrifice de communion. Notre communion avec le Seigneur doit être journalière, quotidienne. C'est une eau jaillissante, une eau vive, ce n'est pas une mare d'eau stagnante. Nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui de la communion que nous avons eue il y a 3 jours. Ne cherchons pas à avoir des expériences. Ne cherchons pas à nous accrocher à des expériences il y a 3 jours, si belles soient-elles. Le chrétien n'est pas un homme du passé, mais sa communion avec son Dieu est journalière, quotidienne, constante, renouvelée, que rien ne vienne interrompre. Le sacrifice d'action de grâce dans l'Ancien Testament devait être mangé le jour même, comme la manne, sinon le lendemain, c'était l'infection. Une autre condition, Lévitique 7, versets 19 à 21, La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. Tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui se trouve en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel. Celui-là sera retranché de son peuple. Celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure d'homme, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur, et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. Le sacrifice d'action de grâce ne doit pas être souillé par quelque chose d'impur. Nul impur ne pouvait s'approcher du sacrifice offert au Seigneur, car ce sacrifice appartient au Seigneur. Et le croyant qui voulait offrir un sacrifice d'action de grâce devait avoir auparavant offert un sacrifice pour le péché. Il devait être pur, il devait se présenter quasiment, son péché devait être réglé avant de pouvoir être reconnaissant. Notre marche, notre communion avec le Seigneur ne peut avoir lieu que dans la pureté, couvert par le sang de Jésus, qui seul nous purifie de tout péché. Le sacrifice d'action de grâce, sacrifice de communion, sacrifice de reconnaissance, est aussi un sacrifice de paix. Le sacrifice d'action de grâce, shelem, en hébreu, la même racine que shalom, c'est le sacrifice qui nous parle de paix avec Dieu. Nous savons que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Il est notre paix. Éphésiens 4, verset 12. Et dans Colossiens 3, verset 15, que nous avons lu tout à l'heure, que la paix de Christ règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Bénissons donc le Seigneur Dieu et rendons-lui grâce de nous avoir donné la paix, de pouvoir vivre en communion avec lui grâce au sacrifice parfait du Seigneur Jésus sur la croix. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as accompli pour nous, pour notre salut, pour notre marche avec toi. Nous te remercions, Seigneur, car tu as donné ton Fils, unique Jésus-Christ, pour que notre péché soit effacé, pour que nous ayons ton pardon, pour que nous puissions nous approcher de toi de façon comme tu le souhaites. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons la paix avec toi, nous pouvons marcher avec toi par le sacrifice du Seigneur Jésus. Nous te remercions pour tout cela, Seigneur, bien que nous en soyons indignes, mais dans ton amour, tu nous acceptes, tu nous reçois, si nous avons parcouru le chemin que tu as déjà tracé pour chacun d'entre nous. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.